7h42 en temps universel, RFI matin, suite F1, tout de suite les sports. Avec vous, Christophe Diremjian, le football, le Nigeria obtient 3 points sur tapis vert après sa triste expérience en Libye dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.
Eh oui, la commission de discipline de la CAF a déclaré ce match perdu pour les Libyens par forfait 3-0 avec une amende de $50 000 en prime pour la fédération. Match jamais disputé, souvenez-vous, car les Nigérians ne sont jamais allés plus loin que l'aéroport désaffecté d'Al Abraq où ils ont atterri le 13 octobre pour y être finalement bloqué pendant plus de 15 heures. Sans nourriture, sans pouvoir dormir, sans explication d'ailleurs, avant de se décider à reprendre l'avion pour Kano. La fédération nigérienne avait dénoncé à l'époque, je cite, des traitements inhumains.
Le Sénégal, lui, reste le roi du beach soccer africain.
Cinglante mise au point des Lions en finale de la CAN à Hurghada en Égypte. Victoire 6-1 sur la Mauritanie qui avait eu l'outrecuidance de battre les Sénégalais en ouverture de la phase de groupe. 5e titre d'affilée, le 8e en tout pour les joueurs de N'Gala Sila, l'entraîneur heureux d'avoir vu son équipe reprendre le bon chemin après ce faux pas inaugural.
C'était pas du tout évident. Quand tu débutes avec une défaite, il fallait avoir un mental de fer, il faut y croire jusqu'au bout. Mais moi, je crois à mes qualités, avec tout le monde ici, je sais qu'on a une belle équipe et puis on peut perdre dans un tournoi et on a vu qu'une équipe qui monte en puissance. Par rapport à la Mauritanie, c'est une belle formation. On a joué plusieurs matchs avec la Mauritanie en amical, sur 16h chez nous. Mais après, il fallait étudier la Mauritanie, c'est bien vrai, le premier match, on n'était pas du tout rentré dans le match parce qu'il y avait des doutes. Et après, voilà, c'est une équipe qui joue que des contres. Ils n'ont jamais proposé un jeu pour marquer. Et aujourd'hui, on l'a fait exprès de les laisser avec le ballon, de les empêcher de jouer des contres. Le Sénégal était meilleur aujourd'hui.
N'Gala Sila, le sélectionneur du Sénégal. Le Maroc a pris la 3e place de cette CAN de beach soccer en dominant l'Égypte 4-3.
C'est l'un des plus jeunes entraîneurs au monde d'un club de l'élite professionnelle et il est en Côte d'Ivoire.
Il s'appelle Alexandre Lafitte. Il est à peine plus âgé que Kylian Mbappé, mais au lieu de briller sur les terrains, il est en train de faire briller à nouveau le Stade d'Abidjan, adversaire aujourd'hui de Sol FC en championnat. Notre correspondant Yoann Gourlet nous retrace le parcours et la réussite de ce technicien plutôt précoce.
À seulement 27 ans, le coach français passé par le Paris FC féminin et la PSG Academy a réussi à s'imposer au sein d'un club qui était alors relégable à son arrivée en janvier 2023.
On ne parle pas d'âge parce que à partir du moment où le joueur, vous lui donnez du respect, vous lui donnez un sens à un projet et qu'il ressent qu'il peut progresser, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Quel que soit l'âge, après, il faut avoir une certaine forme de charisme, il faut savoir mettre en place des règles, mettre en place un projet.
Et en quelques matchs, la mayonnaise prend, le Stade d'Abidjan se sauve et termine 8e. La saison d'après, Alexandre Lafitte hisse son équipe à la 2e place du championnat, avant de la qualifier fin septembre pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Un parcours de rêve et des joueurs emballés par le profil de leur entraîneur, AKSIS et milieu de terrain au Stade d'Abidjan.
On est épanoui sur le terrain, c'est le plus important pour un footballeur. Donc il crée cette plateforme-là et nous, voilà, on arrive à s'exprimer, c'est le plus important.
Ça fait quoi d'avoir un entraîneur aussi jeune ?
Il nous comprend, on se comprend, parce que voilà, le message qu'il véhicule passe facilement, parce que voilà, il se met dans la peau du footballeur que nous sommes.
L'un des plus jeunes entraîneurs de première division au monde s'apprête à affronter des clubs référents sur le continent, Orlando Pirates et Al Ahly, le tout en essayant de jouer sur les deux tableaux, car en Ligue 1 ivoirienne, son équipe n'a pris que 6 points en 4 matchs. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Enfin, le Tour du Faso, lancé vendredi, s'attire les foudres de l'Union Cycliste Internationale qui a décidé de retirer immédiatement l'épreuve de son calendrier après avoir constaté la présence d'une équipe russe dans le peloton, et ce en violation du règlement en vigueur depuis le début de l'invasion en Ukraine. D'autres mesures disciplinaires sont envisagées, mais en attendant, la course continue. 3e étape aujourd'hui, 102 km entre Ouagadougou et Koudougou. Victoire d'étape hier pour le Belge Lance de Caboteur. Le Marocain Mohsin El Khouraji est toujours leader au général.
Merci Christophe Diremjian, bonne journée.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
L'Iran affirme son droit à se défendre après les frappes israéliennes hier matin contre des sites militaires. Téhéran évoque 4 morts mais des dégâts limités. Joe Biden espère la fin du cycle de riposte entre les deux pays, mais son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, s'inquiète des risques d'escalade. Sur le front libanais, l'armée israélienne a frappé de nouveau la banlieue sud de Beyrouth tôt ce matin et fait état de 80 projectiles tirés par le Hezbollah. Du côté de la bande de Gaza, le chef de l'OMS évoque une situation catastrophique avec une grave pénurie de fournitures médicales et un accès restreint qui prive les habitants de soins vitaux dans le nord de l'enclave. L'armée israélienne a pris d'assaut vendredi le dernier hôpital en fonctionnement du nord de la bande de Gaza. L'OMS parle de 3 soignants et un autre employé blessé. Le ministère de la Santé gazaoui annonce la mort de 2 enfants. L'armée israélienne est accusée d'avoir détenu des soignants, des patients, des déplacés, mais dément avoir tiré à balles réelles dans l'hôpital. À la une également la Géorgie et le parti au pouvoir donné gagnant des législatives. Le rêve géorgien, accusé de dérive pro-russe, obtiendrait 53% des voix selon des résultats partiels. L'opposition européenne, pro-européenne, dénonce des résultats faussés. Et puis en Guadeloupe, près d'un quart des foyers toujours privés d'électricité. Le préfet du département français d'outre-mer annonce la reconduction du couvre-feu dans plusieurs secteurs.
RFI Matin.
C'est une info qui a suscité l'émoi et la polémique en France. La vente par Sanofi du Doliprane, principale marque de paracétamol commercialisée dans le pays, à un groupe américain. La décision a relancé la réflexion sur la défense de la souveraineté française dans des domaines stratégiques et dans notre tour du monde des correspondants. Regard ce matin sur 3 pays où ce débat est aussi présent. Les États-Unis eux-mêmes sont confrontés au problème. C'est d'ailleurs un sujet de la campagne pour la présidentielle. Alors que l'emblématique US Steel, le fleuron sidérurgique américain, pourrait passer sous pavillon japonais, une acquisition à près de 15 milliards de dollars désavouée par les 2 candidats à l'élection, Karine Auton.
Cette offre de rachat est devenue tellement politique dans le paysage américain que les autorités ont décidé de ne trancher qu'après l'élection du 5 novembre seulement. US Steel a averti depuis un mois qu'un échec de la fusion avec Nippon Steel mettrait en péril des milliers d'emplois syndiqués aux États-Unis. Pire, que le sidérurgiste américain se détournerait de ses installations de hauts fourneaux et déplacerait son siège social de Pittsburgh en Pennsylvanie. Pourtant porté par une remise à l'honneur du fabriqué aux États-Unis au cœur de leur campagne, ni Kamala Harris ni Donald Trump ne se disent favorables à ce rachat et le président Joe Biden est complètement contre. Le puissant syndicat USW essaie de rallier à lui les syndicats locaux, convaincus que cette reprise japonaise est la bonne solution. Verdict dans quelques semaines.
Karine Auton à New York, on traverse l'Atlantique et on met le cap sur le Sénégal. Ici, depuis quelques mois, c'est le possible rachat d'un fleuron national de la volaille qui fait craindre un nouveau coup à la souveraineté alimentaire, Gwendal Lavina.
Lorsque les discussions sur le projet de vente du leader sénégalais de la production de volailles sortent dans la presse début juillet, tout Dakar en parle. Il faut dire que Sedima, propriété de Babacar Ngom, est parmi les derniers champions locaux issus d'une entreprise familiale qui a su prospérer et rester sénégalais. Mais cela pourrait bientôt changer puisque l'américain Seaboard, qui a déjà racheté en 2017 les grands moulins de Dakar, un autre symbole national, compte bien mettre la main dessus. Après Patissen, vendu en 2023 à des intérêts marocains, et Avicen en mars dernier à un groupe singapourien. C'est un nouveau coup dur pour la souveraineté alimentaire du Sénégal. Le pouvoir politique, lui, encaisse le coup. Aucune entreprise sénégalaise ne peut rivaliser avec les sommes mises sur la table par les investisseurs étrangers, explique un analyste du secteur. Cela n'empêche pas l'exécutif de se mobiliser. Depuis qu'il est Premier ministre, Ousmane Sonko a ainsi rencontré les chefs d'entreprises sénégalaises pour les inviter à ne pas céder trop de leur capital à des intérêts étrangers.
Gwendal Lavina, Dakar. Enfin, même la puissance industrielle allemande n'est pas épargnée. Faire des affaires en Chine et avec la Chine, tout en préservant des secteurs stratégiques, c'est le grand écart auquel doit se livrer l'Allemagne, très dépendante des exportations, Pascal Thibault.
Les investissements chinois en Allemagne suscitent régulièrement des polémiques. Vont-ils de soi pour une économie ouverte sur le monde ou présentent-ils un risque, notamment dans des secteurs considérés comme stratégiques? La reprise du fleuron allemand des robots industriels KUKA en 2016 par un investisseur chinois a par exemple été approuvée, mais depuis, Berlin a durci les conditions pour autoriser de telles participations et souligne les objectifs politiques poursuivis parfois par Pékin. C'est un investissement chinois dans le port de Hambourg, dont le chancelier fut le maire, qui provoque un vaste débat. Ses alliés verts sont sur une ligne plus dure et à l'arrivée, la participation chinoise est revue à la baisse. Depuis, différentes reprises ou participations ont été bloquées, qu'il s'agisse de semi-conducteurs ou de turbines à gaz susceptibles d'être utilisées à des fins militaires. Leur importance stratégique ou le risque politique ont empêché ces investissements.
Pascal Thibault à Berlin et notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Dakar, 92 FM.
Ça fait débat avec Wati, le regard sur RFI du groupe de réflexion ouest-africain. Bonjour Gilles Yabi.
Bonjour.
Un épisode spécial forcément aujourd'hui, puisque c'est le dernier après 5 ans de présence hebdomadaire de Wati sur notre antenne.
Oui, toute chose a une fin et c'est avec une réelle émotion que j'ai dit au revoir aux nombreux fidèles de ce rendez-vous inauguré le 9 novembre 2019. 230 chroniques, une très grande diversité de sujets de réflexion concernant des pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et des autres régions du continent africain, mais aussi un regard ouest-africain sur l'actualité internationale. Une actualité extrêmement chargée, dominée par un enchaînement de crises au cours des 5 dernières années. La pandémie du coronavirus en 2020, bien sûr, tout ce qu'elle a révélé, confirmé et bouleversé dans la marche du monde, le départ chaotique des troupes américaines d'Afghanistan en 2021, et les leçons dérangeantes qu'il a fallu enfin tirer sur les choix des grandes puissances au gré de leurs intérêts fluctuants au fil du temps. La guerre du Tigré en Éthiopie de 2020 à 2022, avec un épouvantable bilan humain et des crimes de masse toujours impunis. Depuis 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses multiples conséquences sur les pays africains. Depuis avril 2023, une nouvelle guerre au Soudan, qui n'en finit pas de détruire ce pays au cœur du continent et de fragiliser tous ses voisins. Et depuis octobre 2023, la guerre sans aucune limite d'Israël à Gaza, en réponse à l'attaque terroriste du Hamas et son extension aujourd'hui au Liban et même à l'Iran.
Mais la majorité de nos rendez-vous ont surtout été consacrés au décryptage des évolutions politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest, malheureusement négatives au cours de ces dernières années.
Oui, on aurait voulu proposer une balance plus équilibrée entre des sujets positifs mettant en valeur les progrès réels dans différents secteurs économiques, technologiques, sociaux et culturels, la myriade d'initiatives individuelles et collectives qui changent la vie de milliers ou de millions de personnes dans les pays africains. Mais il était indispensable, moralement indispensable, de regarder en face la réalité de la montée de la violence, de l'insécurité et de la fascination pour la guerre, de ne pas ignorer les signes palpables de la capture de l'État par des groupes au pouvoir, même dans les pays prétendument démocratiques, de ne pas fermer les yeux sur les retours à la loi du plus fort, du plus cynique, se traduisant par des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et des condamnations abusives par des institutions judiciaires décrédibilisées. Il aurait été irresponsable de ne rien dire de ce que pourrait devenir une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, et d'ailleurs de l'Afrique centrale aussi, dans quelques années, si de nouvelles raisons d'espérer une vie plaisante et valorisante n'étaient pas vite offertes à des dizaines de millions de jeunes et d'enfants ultra-majoritaires partout. En tant que plateforme de réflexion et de débat public, nous sommes avant tout ancrés dans la réalité, tenus par une exigence de lucidité dans notre regard sur notre partie du monde telle qu'elle est, sur toutes les parties du monde telles qu'elles sont, et sur les perspectives que tout cela dessine.
Alors Gilles, ça fait débat avec Wati, s'arrête sur RFI, mais le travail de Wati se poursuit bien sûr sur toutes vos plateformes.
Absolument, ce rendez-vous, fruit d'une collaboration informelle entre Wati et RFI, sans aucune dimension financière, a permis de refléter une partie de nos publications, de nos tables rondes, de nos dialogues. Ce travail se poursuit et continuera à simplifier, Inch'Allah, comme on dit ici à Dakar, à partir du site internet, de la chaîne YouTube, de nos pages sur les principaux réseaux sociaux, accessibles à toutes et à tous. À très bientôt donc.
Gilles Yabi, merci. Les 230 chroniques de notre rendez-vous restent à réécouter sur RFI.fr. C'est là aussi qu'on retrouve les liens vers vos pages. À très bientôt et merci encore.
RFI Matin.
Bientôt 8h en temps universel et RFI Matin touche à sa fin. L'info continue dans 5 minutes avec le journal avant une parenthèse avec 100% création. Et aujourd'hui, une artisane designer qui mêle lumière, matière et inspiration littéraire. Marion Mésange, tourneuse sur métal et fabricante de luminaires, lauréate 2024 du prix de la jeune création métier d'art. Elle expose pour la première fois ses œuvres au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Maria Afonso nous emmène à sa rencontre.
La création m'accompagne et des fois, elle est moins présente.
Marion Mésange, artisane designer, tourneuse sur métal et fabricante de luminaires de la marque éponyme.
Depuis l'âge de 15 ans, je fais quand même des études dans le secteur de l'art et de l'artisanat. La création, c'est une fidèle amie.
Marion Mésange est née en banlieue parisienne. Elle a grandi dans un environnement familial propice à l'imagination. Sa passion pour l'artisanat a démarré dès son plus jeune âge, au contact d'un père bricoleur qui l'a initié à divers matériaux dans leur atelier familial. Ses expériences, découvertes des matières, l'ont naturellement conduite à intégrer l'école Boulle à Paris, où elle découvre le tournage d'art. Après 5 années d'apprentissage intense, elle obtient son diplôme des métiers d'art en section tournage, effectue des stages dans différents ateliers, apprenant ainsi les rouages du mobilier et des luminaires sur mesure. Passionnée par les récits d'exploration, Marion Mésange nourrit son imaginaire de ses lectures.
Ma première collection a été ma collection de bougeoirs. C'est après les avoir dessinés que je me suis rendu compte que c'était lié à toutes mes lectures. Je suis assez passionnée par les récits d'explorateurs qui ont quitté un circuit classique pour s'intéresser à des terres inhospitalières ou des animaux, etc. Maintenant, je me rends compte que c'est vraiment ma base. La lecture nourrit mon imaginaire. Quand je dessine des pièces, ça se connecte. Maintenant, je sais que c'est comme ça que ça marche.
Le choix des matériaux est important pour Marion Mésange, qui s'est tournée vers l'aluminium. Ce dialogue entre matière et émotion donne naissance à des créations sans pareil.
Je dis que je suis en train de me constituer une bibliothèque du froid. La glace, la banquise, les explorations sur ces terres-là. Je me suis énormément orientée sur le travail de l'aluminium. C'est une matière qui est catégorisée comme pauvre et qui n'est pas du tout dans le secteur de l'artisanat d'art, ou très peu. Trouver un langage plastique avec cette matière qui me permette de la dissocier des codes actuels, complètement l'anoblir, et en même temps voir si ça peut porter mes lectures. Et s'avérer que la technique qu'il y a sur Léonie ou la Pixie Gris, on est tout de suite dans cette ambiance un peu banquise. C'est la première chose que les gens me disent. Ça fait froid, on dirait du givré. Souvent, tout s'imbrique un peu.
Retrouvez l'univers de Marion Mésange sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création, et pour refermer cette édition du dimanche d'RFI Matin, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. Demain matin, vous retrouvez Andréane Mellard à partir de 5h, temps universel, et d'ici là, l'info continue bien sûr sur RFI. Restez avec nous, le journal dans une minute. Très bon dimanche à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI à Fort-Dauphin, 96 FM.
Hello, je suis Tiken Diafakoli. Je vous donne rendez-vous pour un concert acoustique les 13 et 14 novembre à la salle Playel à Paris, mais aussi en tournée. Rastafari.
Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe.
Retrouvez Tiken Diafakoli lors d'une tournée inédite en acoustique, entouré de ses musiciens à Paris, Clermont-Ferrand, Nantes, Lyon ou encore Londres, en partenariat avec RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Beya Gilgacha, artiste plasticienne passée par l'école du Louvre, qui s'inspire des codes traditionnels bamiléké du perlage. Du bel ouvrage, métissé, qui prend sa source dans l'histoire de l'Afrique, avec ses traumas et ses trésors. Bref, c'est une perle.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Nouvel horaire tout à l'heure, à 15h10 TU, et en podcast sur RFI.fr.